Jérémy, comment vas-tu?
Salut, ça va bien, merci, ça va bien.
T'es allé à Brossard aujourd'hui,
oui.
Jérémy?
Oui.
Comment
oui.
ça s'est passé comme retour au travail chez le Canadien?
Oh, tranquille, écoute, petit 45 minutes de patin. T'sais, honnêtement, là, ils n'ont pas poussé très, très, très fort. Je pense que ça va être demain matin vraiment où on va se remettre réellement au travail. Puis c'est normal, écoute, les gars n'avaient pas patiné depuis dimanche, donc c'était genre de petite remise en forme qu'un entraînement où on travaillait sur la tactique, ça c'est certain. Bon, ceci dit, on avait des nouveaux trios, t'as raison. Bon, par exemple, celui entre Galchenyuk, Drouin et Hudon, qui, Claude Julien nous en a parlé un petit peu, ça pourrait être un trio qu'on va voir demain, mais pas nécessairement un trio qu'on va utiliser sur la route lorsqu'on n'a pas le dernier changement. Donc, je pense qu'il veut pouvoir se servir de ce trio-là potentiellement contre des trios contre qui il peut faire des dommages, contre les Bruins de Boston demain soir, mais c'est pas nécessairement un trio qu'on va revoir à Boston. On verra bien, là, mais de la façon dont il nous parlait, ce serait un trio qu'on utiliserait peut-être juste à domicile. On verra. Victor Mété de retour.
Il était content, lui, d'être de retour avec Canadien, j'imagine.
Oui. Oui, très content de savoir qu'il allait être de retour avec Canadien. Mais écoute, tu sais, je me souviens quand il est parti, il nous avait dit « Ah, j'aimerais mieux rester à Montréal ». Finalement, on a vu qu'il y a eu du fun. T'sais, on a vu qu'il y a eu du fun. Puis tu sais, à un moment donné, on lui a posé la question, c'était quoi, mis à part de gagner, c'était quoi l'affaire la plus fun? Puis il a dit, tu sais, c'était de retrouver des chums, des gars de mon âge, tu sais, puis des amis, des gars avec qui j'ai joué depuis 3 ans que j'avais pas vu. Depuis les débuts de la saison et tout ça. Donc, je pense que ça a fait du bien. Ça a aussi permis de réaliser c'est quoi vraiment la coche entre la Ligue nationale et le junior, parce que là, il a fait quand même la navette. Il était dans le junior l'année passée, Ligue nationale au début de cette saison, retourne dans le junior avec les meilleurs cette année, mais il y a quand même encore toujours une coche, donc ça lui permet de le réaliser. Mais il était bien content que le Canadien ait confirmé là, son retour avec l'équipe. Il était avec Schlemko ce matin, cet après-midi. On dit souvent ce matin, les gars s'entraînent en matinée normalement. Et c'est ça. Donc, c'est Joe Morrow qui se retrouvait un peu le 7e patineur là, parmi les défenseurs. Osner était avec Petrie. Yerabek avec Ben. Donc, ça ressemblait un peu à ça, là, ce patin. Là.
OK. Puis les gars, comment étaient dans le vestiaire? Est-ce qu'ils savent que le défi qui les attend va être quand même assez... Il est énorme. Là. Il est énorme. 8 points sur la 8e place. La dernière équipe repêchée, les Hurricanes. Ouais. Il reste 40 matchs.
Ouais.
Ça sera pas évident.
Écoute, C'est pas évident du tout, puis je vais t'expliquer pourquoi. En début de saison, là, on voit beaucoup de matchs contre la conférence de l'Ouest. OK? Puis ça, c'est le calendrier est fait comme ça. À partir du mois de janvier, c'est beaucoup des matchs intra-division. Là, on le voit, là, c'est par exemple, c'est les Bruins que le Canadien va affronter 3 fois dans les 8 prochains matchs. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Yannick? Ça veut dire que même si tu espères que, je dis n'importe quoi, que les Pingouins perdent, mais c'est parce que les Pingouins affrontent les Islanders.
Ah oui, non, c'est des matchs de 3 points.
Fait que, tu sais, il y a quelque part, il y a quelqu'un qui va tout le temps avancer. Comprends-tu? Si on était en début de saison, puis tu dis, ah, mais regarde, il y a plusieurs matchs contre l'Ouest, peut-être que des équipes de l'Est vont perdre contre des équipes de l'Ouest, puis que les points vont se retrouver dans l'Ouest au lieu de dans l'Est, c'est une chose. Mais là, les équipes de l'Est s'affrontent toutes une après l'autre. Donc, en quelque part, il y a tout le temps quelqu'un qui ramasse des points. Fait que t'as bien beau vouloir espérer qu'une équipe batte une autre, il y a tout le temps quelqu'un en avant de toi qui ramasse des points. Veux pas. Minimum 2, peut-être même 3. Fait que la tâche, c'est pour ça que les gens, ils disent, tabarouette, tu sais, s'ils gagnent 3-4 matchs, sont de retour dans le portrait des séries, comment ça se fait que mathématiquement, les chances, c'est juste 1,5%? Ben, c'est pour ça. C'est parce que c'est vrai que mathématiquement, si tout le monde perdait, les Canadiens pourraient les dépasser. Mais la réalité, c'est que tout le monde s'affronte. Fait qu'il y a quelqu'un qui ramasse des points en quelque part. Fait que t'es toujours en arrière. C'est ça qui fait que c'est compliqué.
Puis quand tu regardes le classement, Jérémy, c'est que, tu sais, devant le Canadien, il y a Détroit à 41, puis la Floride à 42. Ces deux équipes-là, le Canadien peut les rejoindre, OK?
Ouais.
Je les enlève pas de l'équation parce qu'ils sont devant. Mais après ça, tu tombes aux Islanders qui sont à 46, comme les Flyers.
Ouais.
Et les Pingouins qui sont exclus des séries à 47.
Ouais. Ouais, non, mais écoute, on se compte des histoires, là. On va se dire la vérité.
Ah, non,
le Canadien n'a pas chez Weber.
Ah non.
Ils n'ont pas un. Écoute, ils risquent de fracasser un record de médiocrité pour ce qui est des points récoltés par le meilleur pointeur de l'équipe cette saison. Fait que, tu sais, Il n'y a rien qui pointe vers « Hey, tout d'un coup, le Canadien va devenir bon pour gagner bien des matchs puis devenir une équipe. » C'est pas une équipe des séries, le Canadien. Fait que, tu sais, on s'accroche à un rêve, mais tu sais, tout le monde le sait dans le vestiaire-là, que dans ce vestiaire-là, que c'est très, très peu probable. D'ailleurs, nous, on a déjà commencé à parler tout à l'heure avec Tomáš Plekanec. Tu sais, regarde, faut commencer à préparer le terrain. Là, on s'entend, là, c'est un gars qui fort probablement va changer d'adresse dans les prochaines semaines. Il a pas l'air d'avoir nécessairement le goût de partir. Il est confortable dans ses pantoufles, il aime Montréal, ça fait longtemps qu'il est ici, puis tout ça, puis il a dit, tu sais, il n'y a pas un joueur qui va refuser une opportunité de gagner une coupe en quelque part, mais c'est en sûr. Même temps, tu sais, je suis à l'aise ici, on va l'écouter okay. si on veut le voir.
Ask any player in the league who wouldn't, but I would love to have that chance with Montreal.
I mean, if there are trade talks, are you expected to be informed, are you expected to be in the loop before a trade is made?
No, I don't think so. I mean, you know, whatever happens, I don't think I have to be informed about that. I don't have any no trade or no move clauses in my contract. So, like I said, I always wanted to play for Montreal. I love the place. I love to come to the Bell Center every time for the home games. The passion and the building there, it's special. And it never changed since the beginning I've been here. And my goal is to play for Montreal. And what will happen is right out of my hands.
Alors, bon, il dit « J'ai pas de clause de non-échange ou quoi que ce soit, donc je sais que c'est une possibilité. Je m'attends pas à ce qu'on me garde informé à savoir où est-ce que je pourrais ou ne pourrais pas me retrouver. » Mais il dit en même temps « J'aime le Canadien, j'aime le Centre Bell, j'aime l'ambiance ici, puis ma priorité, ce serait de demeurer ici. »
Ouais.
Voilà.
Puis c'est un bon vétéran, puis ouais. J'espère qu'on va le traiter d'une façon un petit peu plus respectueuse qu'on a traité André Markov, mais on reviendra pas là-dessus parce que c'est de l'histoire ancienne.
Je suis d'accord avec toi. Je pense que si on était correct chez le Canadien, là, on lui dirait, tu sais, une semaine d'avance, on dirait, regarde, on est en train de préparer le terrain. Voici les équipes pour qui on a de l'intérêt. Tu sais, prépare-toi, on s'en va dans cette direction.
Puis tu sais, si tu l'échanges, là, puis je vais finir là-dessus sur le Canadien parce que je veux te parler de l'impact. Si tu l'échanges, faut que tu sois sûr de mettre à sa place un gars capable de remplir à peu près ce que lui peut faire sur la glace. Ou un gars calibre Ligue nationale pour venir le remplacer?
Ben, écoute, je pense que immédiatement, c'est pas une priorité. Tu sais, si on n'a personne pour jouer le rôle de Plekanec cette année pour finir l'année, mettons qu'il est échangé le 26 février, puis on finit les cinq dernières semaines de l'année sans un joueur de ce type-là, c'est pas dramatique. Sauf que durant l'été,
ça. Oui, c'est ça. On se rejoint. Il faut que tu le remplaces par quelqu'un. OK, donc Canadien demain, 18h30, sur l'ensemble du réseau Cogeco avec Martin et Danny. Je vais profiter de ta présence pour te parler de l'impact, mon cher.
Oui. Ouf.
Bon, là, tu vas m'expliquer quelque chose. Je sens un ouf de désespoir.
T'as-tu le show complet? On peut-tu faire le show complet là-dessus?
On a 7 minutes.
Tabarouette, OK.
Écoute, moi, là, je vais te résumer grosso modo comment je vois la situation de l'impact depuis que l'équipe a été éliminée.
Oui.
Depuis que l'équipe a terminé sa saison. Mauro Biello terminé.
Oui.
Patrice Bernier joue son dernier match.
Ouais.
Mauro Biello terminé.
Ouais.
Assun Camara annonce sa retraite.
C'est ça.
On échange Laurent Simon.
Ouais.
Rémi Garde
est parti.
Oyongo est parti.
Ouais.
Entre-temps, on annonce Rémi Garde.
Ouais.
Ensuite, Laurent Simon, je l'ai dit. Ensuite, on annonce les entraîneurs qui vont se joindre au personnel d'entraîneurs de l'Impact.
Ouais.
C'est ça.
Ouais, on a Vandril Lefebvre qui s'est fait dire qu'il reviendra pas.
Ouais.
Il y a Maxime Crépeau qui a demandé une transaction. Aujourd'hui, on a appris que Jean-Yves Balou-Tabla avait pas changé son fusil d'épaule. Son plan, c'est de partir. C'est ça. Mais écoute, je vais te dire.
Mais l'impact a un plan, là.
Moi, j'ai très peur.
Ah oui?
Oui. Parce que je vais te dire là, que depuis que je suis de retour de vacances, là, j'ai passé beaucoup de temps au téléphone et dans des restos à rencontrer des gens qui sont proches de la situation pour vraiment pouvoir comprendre. Et, tu sais, je ne suis pas certain que l'enveloppe budgétaire qu'on avait pour l'année à dépenser a nécessairement été augmentée parce qu'on avait été chercher des entraîneurs de qualité. Moi, selon ce que je me suis fait dire, là, le groupe d'entraîneurs de l'Impact, cette année, ça va coûter proche de 4 millions canadiens.
OK? Hey.
Si, mettons, le budget pour l'année, mettons là, que chez les Saputo, là, on avait prévu que cette année, on dépenserait 7 millions. Je dis n'importe quoi. Bien là, il y en a 4 qui sont partis. C'est pas parce qu'on a dépensé 4 sur les entraîneurs que ça reste 7 millions le budget. Le budget, c'était 7. Il y en a 4 qui sont partis. Il en reste 3. Et quand Rémi Garde nous dit « Oh, le mercato est plus compliqué qu'on pensait », ouais, c'est parce que justement, on n'a pas nécessairement l'intention de dépenser l'argent qu'on pensait vouloir dépenser. Là, c'est ça la situation devant laquelle on se retrouve présentement. T'sais, quand on nous dit « Ah, ben Blérim Zemaili est parti, puis ben c'est une belle opportunité pour le remplacer. » Blérim Zemaili, là, Nick DeSantis, là, ça lui a pris 2 ans l'amener à Montréal. 2 ans. Comprenez-vous comment c'est compliqué aller chercher des joueurs de cette qualité-là? C'est extrêmement compliqué. Et surtout dans la fenêtre de transfert d'hiver, où non seulement faut-tu négocier avec le joueur, mais faut-tu négocier aussi avec l'équipe qui se débarrasse du joueur. C'est extrêmement compliqué. Je rappelle aux gens, tic-toc, 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 que la fenêtre de transfert d'Europe se termine dans 19 jours, pile. Ça, c'est la fenêtre de transfert qui nous permet d'aller chercher des joueurs en Europe, là où Rémi Garde a ses entrées. Si ça ne marche pas d'ici le 31 janvier, puis ça s'en vient vite, va falloir regarder ailleurs. Peut-être des transactions intra-MLS, peut-être aller chercher des joueurs dans d'autres championnats, africains, sud-américains. Ça, c'est pas impossible parce que les fenêtres de transfert seront encore ouvertes, mais c'est pas là que Rémi Garde a ses entrées, puis c'est pas là que lui, il y a les joueurs que lui veut aller chercher. Fait que si c'est Rémi Garde puis ses contacts à lui qui vont nous amener des joueurs, ils ont 19 jours pile pour nous les amener.
Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que le plan que l'Impact a, tu as des réserves.
Ben oui, j'ai des réserves, c'est sûr. En fait, là, la réalité, elle est bien claire. Quand tu annonces un gars comme Rémi Garde au mois de novembre et que tu lui donnes carte blanche puis tu lui dis « Écoute, c'est à toi d'aller chercher tes joueurs », ça lui donne 2 mois et demi ou à peu près pour aller chercher les joueurs qu'il veut. Dans le monde du soccer, là, 2 mois et demi, là, ça passe en claquant des doigts. Pour aller chercher des joueurs de qualité, puis même de deuxième ordre, mais d'une certaine qualité, ça prend des négociations qui durent des mois, des fois même des années. Présentement, là, je fais le tour des sites Internet, il y a quelques petites rumeurs ici et là, mais il n'y a rien de vraiment convaincant. Il n'y a pas de joueurs établis, franchise, il n'y a pas de joueurs désignés dont les noms circulent pour qu'ils se retrouvent avec l'Impact. Ça ne veut pas dire qu'ils ne viendront pas peut-être au mois de juillet. Ça, c'est pas impossible. Ce serait même plus facile. Sauf que, donne-nous l'heure juste. T'sais, dis-nous la vérité. Rémi est arrivé. Lui, il y a des joueurs qu'il va absolument avoir. Pour nous, ça va être plus facile d'aller chercher ces gars-là au mois de juillet. C'est juste plus compliqué maintenant parce qu'ils sont dans leurs équipes et tout ça. On va commencer l'année avec ce qu'on a en espérant gagner notre part de match, rester dans la course aux séries, puis au mois de juillet, on va aller chercher des joueurs qui vont nous aider pour la fin de la saison. Mon opinion, c'est un plan qui ne marcherait pas. Parce que tu aurais joué à peu près 18 matchs le 1er juillet, puis fort probablement que tu serais déjà éliminé. Mais ça, ils ne voudront jamais le dire publiquement.
OK, ça va être intéressant à suivre. De toute façon, on va s'en reparler, Jérémy, de la situation de l'Impact. Je te pose la question que je vais poser aux gens tantôt.
Oui.
Quelle personnalité sportive t'inspire le plus confiance?
Ben écoute, moi, étant donné que je suis proche de l'Impact, je vais te parler d'un gars dont on s'est déjà parlé, bon, maintenant qu'il est à la retraite, mais c'est Patrice Bernier. Moi, j'ai couvert plusieurs athlètes dans mes 18-19 ans de carrière de journaliste. Puis des gars comme lui, il s'en fait pas énormément. On parle d'un gars performant sur le terrain. On parle d'un gars qui a pas eu la sympathie de ses entraîneurs tout le temps, mais qui a eu la patience de se la fermer puis continuer de travailler fort. Donne l'exemple aux plus jeunes. C'est un modèle. Il est respecté dans son vestiaire, dans la communauté, extrêmement impliqué auprès de plusieurs causes caritatives. Moi, si j'avais un kid puis son héros, c'était Patrice Bernier, j'aurais aucun problème avec ça, même que j'en serais très fier. Je pense qu'on est chanceux d'avoir ce gars-là dans notre ville. On a été chanceux de l'avoir comme emblème du soccer au Québec. Je lui souhaite une bonne retraite, mais des gars comme ça, là, je te le dis, là, c'est, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, moi, c'est le genre d'athlète que j'apprécie vraiment pour toutes les raisons. Puis je vais te le dire, comme ils disent en anglais, he's a better man than me. Parce que moi, j'aurais pété une coupe de crise à sa place dans les dernières années, mais il a jamais fait cela. Il a toujours respecté son club, le logo, sa ville, puis ses fans.